invité à vous parler de mon pays natal. Je vais m'efforcer surtout de vous en communiquer l'atmosphère, cette parenté indélébile d'un poète avec son terroir, à laquelle vos oreilles ont déjà commencé, j'en suis sûr, à être sensibles. Déjà, vous avez sûrement cessé de douter que ce soit un indigène du Tardenois qui vous adresse la parole. Je suis loin d'ailleurs de rougir de cette origine provinciale et rustique. Ma naissance se rattache, ou ma vie elle-même se rattache pendant de longues années, à ce village de Villeneuve-sur-Fère. C'est un petit village de 300 habitants, perché sur une colline, dernière ondulation du Bourlet de la Marne, à l'orée de la grande plaine du Nord, et éloigné de toutes les grandes voies de communication. C'est là que j'ai été consacré à la Sainte Vierge, renouvelant le pacte que mes aïeux paysans, quand ils sauvèrent au péril de leur vie un prêtre assermenté, avaient conclu avec cette aimable et divine protectrice. Mais c'est là aussi que mon cœur et mon esprit se sont ouverts à la fois à la religion et à la poésie. Villeneuve est un rude et austère pays, un pays de gros labours et de forêts, qui n'a rien de la gaieté champenoise et de l'amabilité de toutes ces bourgades vigoureuses qui dorment au bon soleil dans le repli douillet de la Marne. Mais il y a des souvenirs encore plus lointains, celui de notre vieille bonne Victoire, qui tout en gardant sa vache et en nous ouvrant des noix fraîches avec sa faucille, dans un langage plein de mots locaux savoureux, nous racontait les histoires du vieux temps, celui du duc de Cogny, dont le nom a retenti sous Louis-Philippe dans un procès célèbre, le récit du pèlerinage à Liesse, qui dans mon imagination prenait l'importance des voyages de Marco Polo, la chronique des familles et des haines locales, aussi amères et misérables que celles qui ont inspiré Dante et Saint-Simon. Tout cela s'inscrivait dans ma mémoire en très profond. Et il y avait aussi les explorations personnelles que je dirigeais du côté de l'horizon. Car Villeneuve, bâtie sur une espèce de promontoire, jouit de quatre horizons, tous aussi peuplés pour moi, aussi riches de suggestions et de légendes que ceux de l'Edda. Il y a l'horizon de l'Est, qui est la triste région des bergeries et des plateaux, en proie à tous les mouvements d'une énorme nue, toujours en voie de migration, de composition et de décomposition. Il y a le sombre horizon du sud, qui est la forêt de la Tournelle, précédée par la fontaine de la Sbille. Ce n'est que tout récemment que j'ai appris que Sbille, en vieux français, signifie tout simplement une vieille fille. Il y a l'horizon du nord, qui est le commencement de cette plaine que j'ai vue indéfiniment jusqu'à la mer, couverte alternativement de l'amour et de moissons, et que peuplent ces villages au beau nom, Saponay, Cramail, le Grand Rosoir, Assis, Saint-Restitut, sans parler plus loin du côté de Soissons, de Violaine et de Coeuvre. De ce côté, ils m'appelaient les grandes cathédrales invisibles, Lan, Reims, Soissons. Au premier plan, les vieilles fermes de Combernon et de Bellefontaine. Et enfin, l'horizon de l'Ouest, tel qu'on découvre de ce cap où se dissout l'antique Pimon de Chinchy, la butte du Géant, de bruyères et de sable blanc avec ses rochers fantastiques, et puis la vallée de l'Ourcq, la trouée vers Paris, vers le monde, vers la mer, vers l'avenir. Tel que je me rappelle aujourd'hui, tout cet immense paysage découvert à mes yeux était plein d'une tragédie latente, celle que j'ai essayé de traduire dans mes premiers balbutiements dramatiques de tête d'or et de la ville, plein de menaces, de présages, de méditations et de sanglots.